Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 3216, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio. Vous écoutez
RMC. RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Il est 22h28, nous sommes jeudi le 27 juin et ce soir il n'y a pas match les gars. C'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Florent Gautreau et Walid Acherchour sont là, on est ensemble jusqu'à minuit ce soir. On va préparer tous ensemble les huitièmes de finale. On va pouvoir prendre le temps ce soir sans match de faire un bilan de ce premier tour, de cette phase de poule et de se projeter sur les huitièmes de finale. On est toujours en direct sur YouTube. J'ai vu vos messages pour Willy Sagnol qui était avec nous il y a quelques instants. Interview passionnante à retrouver en podcast d'ici quelques minutes. Le 32-16 si vous voulez venir débattre avec nous. Et dans ce bilan de ce premier tour des grosses nations, commençons par les équipes au rendez-vous. J'ai nommé l'Espagne et l'Allemagne. Fred Hamel est toujours là et Polo Breitner nous rejoint. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde.
Ça va, vous êtes en forme les gars aussi, à mi-euro à peu près, pas cramé encore, ça va?
Ah, ça fait du bien deux jours sans foot.
Ah carrément?
Ah oui, ça fait
bien. Bah, de toute façon, ça, ça fait du bien.
L'euro commence maintenant.
Exactement, l'euro commence même en quart de finale.
L'euro, bah bien sûr, l'euro à 24 en fait. Et,
bah, les poules, c'est pour Walid ça, c'est pour les morts de faim du foot, c'est-à-dire les Ligues des Champions avec 140 clubs.
Ah, vous avez plus de matchs. Vous n'avez pas la phase de poule?
Bah, disons que la phase
comment,
de...
comment on fait pour avoir une pour avoir un des huitièmes de finale? Alors, ou des quarts de finale moi, en phase de poule?
La phase de poule. Non, si. Bah, non,
déjà,
non.
Pas c'est pas
jeune, il n'y avait pas de huitième.
Si, non, c'est pas la phase de poule.
Il n'y avait même pas de quart.
C'est le nombre d'équipes au départ. Parce que là, tu as éliminé le classement FIFA. Hein. Tu as éliminé le 39e, le 66e, le 27e, le 24e, le 34e, le 32e, etc. Il y a la Croatie qui est tombée. Ouais. Comme en Ligue des Champions, tu as l'équipe qui se fait baiser une fois, pardon. Qui se fait avoir.
Oula, tu as payé cher.
Régulièrement, parce qu'il y en a une, maintenant. Mais finalement, voilà, tu n'as pas beaucoup de surprises.
Passons 1 euro à 8, sinon, Flo.
Pourquoi pas?
Bah ouais, voilà.
Pourquoi pas?
En fait, vous êtes les pros de la Super League du foot.
Non, mais
du foot international,
non,
en fait.
Non,
ouais. Enfin, oui.
Je ne sais pas qu'on partirait sur ce débat-là.
Mais pourquoi pas?
Très bon débat.
Parce qu'à 16,
ils n'ont plus les matchs à la fin.
Pas tous, mais beaucoup.
Mais la raison pour laquelle ils étaient mauvais, c'est ça qui est terrible. C'est pas forcément les équipes, enfin, la qualité des équipes, c'est la formule.
Pourquoi l'Euro 2008 était dingue, l'Euro 2008?
Il était dingue. Non, mais tout ce qui était plus resserré, mais
les matchs, on était comme le France-Roumanie 0-0 2008.
Tous les euros plus courts étaient meilleurs.
Vous savez pourquoi il y a cette phase de poule? C'est simple.
C'est Platini.
C'est pour qu'on puisse faire le bilan dans l'after.
Ah oui.
Et voilà.
Bien sûr. Il y a des avantages, des inconvénients. Moi, je peux vous.
Bien sûr. Oui, parce que Platini l'a décidé. Idée de l'after. Ben voilà, ok.
Bien sûr que je préfère l'Euro 2000 en termes de compétitivité, de niveau. C'est la meilleure compétition que j'ai vue de ma vie.
Ouais,
mais bien sûr. Mais maintenant.
Et le meilleur Zidane de tous les temps.
Maintenant, c'est pas une plaie de regarder la phase de poule. Il y a des belles histoires. Et puis voilà, on va rentrer dans la compète.
J'ai envie de vous dire, si vous n'aimez pas.
C'est un entracte, c'est un bel entracte.
Si vous n'aimez pas le football, n'en dégoûtez pas les autres.
Oui, voilà.
Non. C'est justement parce qu'on aime le football que nous sommes exigeants avec les gens qui lui font du mal.
Voilà, ne pas dire tout ce mot.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a effectivement, bien sûr, qu'il y a des choses
ceux
à regarder.
Ceux qui aiment l'Euro à 2020, à 24 sont les mêmes qui se plaignent des qualifications. Bah, rehausser le niveau des qualifications en faisant rentrer moins d'équipes dans l'Euro et vous verrez que ce sera beaucoup plus intéressant.
Ah, bah, bien sûr.
Aujourd'hui, les matchs amicaux, c'est les matchs de qualification. Les matchs de qualification, c'est un match de l'Euro, c'est par exemple, c'est Allemagne-Écosse. Et les huitièmes de finale, en fait, c'est la J3 d'un Euro à 16. C'est tout.
Alors, cette phase de poule, revenons-y quand même avec vos clubs, vos nations, messieurs, notamment cette Espagne, on a parlé il y a quelques instants avec la Géorgie, Fredo. L'Espagne, au rendez-vous. Et en fait.
En plus que ça.
C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est plus qu'au rendez-vous. C'est pratiquement une surprise en Espagne de voir l'équipe avoir autant déroulé dans cette phase de poule.
C'est-à-dire que personne en Espagne ne s'attendait à ce que la nation espagnole soit qualifiée au bout de deux matchs, qu'elle passe une branlée à la Croatie, qu'elle marque, qu'elle gagne les trois matchs, qu'elle mette cinq buts et qu'elle n'en prenne aucun. C'est-à-dire qu'on peut pas faire meilleur bilan que celui-là. Et surtout, alors il y a plein d'enseignements. Ces trois matchs permettent de voir plein de choses. La première, c'est l'explosion au niveau international réellement des deux petites flèches, Lamine Yamal et Nico Williams, qui permettent, et c'est la deuxième observation, le dernier bilan intéressant qu'on peut tirer après ces trois matchs, c'est que ces joueurs-là et la volonté aussi du sélectionneur est de faire évoluer le jeu. Comme on avait parlé déjà en after, Capello l'a expliqué, c'est fini le tiki-taka, hein, la possession stérile, etc., qui a été magnifique à un moment, mais qui n'a, voilà, qui ne marchait plus. On l'avait vu lors du dernier mondial. Aujourd'hui, l'Espagne, elle est toujours capable, parce qu'elle a de très bons milieux de terrain, de garder le ballon quand il faut un peu calmer l'adversaire. Ce fut le cas lors des premières minutes, contre l'Albanie. L'Albanie, pendant 7-8 minutes, ils couraient comme des malades, et il y a eu quelques petites approches de la cage de David Raya. Donc là, à ce moment-là, les milieux ont pris le ballon, ils ont calmé tout le monde, et puis après, ils ont pris le contrôle du match, et il y a eu ces envolées des types de devant. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que même sans Lamine Yamal et même sans Nico Williams lors du troisième match où il n'y avait plus rien à jouer, l'Espagne a joué aussi avec des joueurs très très désaxés, en vraiment passant sur les côtés. On a vu un Ferran Torres d'un côté et un Oyarzabal de l'autre être très très près de la ligne de chaud. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable volonté de la part du sélectionneur de jouer avec cette alternative de football direct et de football qui ouvre énormément sur les ailes, même quand il n'y a pas les deux meilleurs joueurs pour jouer ça. Donc ça veut dire que cette philosophie, elle a évolué sans renier l'autre. Et puis il y a de très bonnes découvertes. Personne ne s'attendait à voir Cucurella, le latéral gauche, à ce niveau-là. Et avec, quand on voit le niveau de Grimaldo aussi contre l'Albanie, ben on se dit qu'il y a deux latéraux gauche qui sont exceptionnels. Unai Simon a été parfait lors du match où il y a eu le plus d'occasions contre l'Espagnol, c'est-à-dire contre la Croatie. Et puis, personne ne s'attendait à ce qu'on ait un Fabián Ruiz à ce niveau.
Ouais,
voilà. Ça, c'est sûr. Est-ce que ça va continuer? On ne sait pas. Mais pour l'instant, il n'y a que des bonnes surprises, ou en tout cas de confirmation de ce qu'on voulait en Espagne.
Flo, Walid, est-ce que vous partagez cet optimisme Espagne? Vous voyez quelques limites quand même dans cette équipe-là?
J'en ai déjà parlé à plusieurs émissions. Pour moi, avec le troisième match de l'Allemagne contre la Suisse, même si c'était une adversité différente et un contexte différent, parce que l'Espagne était qualifiée au bout de deux matchs et pas l'Allemagne, pourtant les deux ont fait 6 points, c'est quand même l'Espagne qui m'a fait la plus grande impression dans cette première phase de tournoi. Fred a bien résumé les choses. En plus, on a Laporte qui, sur le troisième match, a été l'un des meilleurs et qui a montré qu'il pouvait apporter une plus-value.
Après, c'est peut-être ça le doute, c'est que cette défense espagnole, les gars, on l'a pas encore trop vue inquiétée.
Moi, je pense qu'avec...
Parce que l'Italie est une déception, on en parlera dans quelques minutes. La Croatie,
contre la Croatie, ils ont concédé l'Espagne sur la première mi-temps.
Oui, mais c'est là où était très bon.
Justement, je pense que effectivement, c'est peut-être là, parce que malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait de questions, même s'il y aura de l'opposition, sur le match contre la Géorgie par rapport au fait que l'Espagne va passer. Donc c'est pour ça que je disais, pour certains, ça commence même en quart de finale. Mais ça peut aussi s'arrêter en quart de finale. Et pour cette raison-là, c'est ça qui est terrible. Et c'est souvent ça avec l'Espagne. Oui. C'est-à-dire que l'Espagne, elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'elle a eu aussi les adversaires qu'il fallait. Elle a été magnifique offensivement. Mais là où tu rentres dans le dur et où certains ont déjà été challengés sur cet aspect-là, l'aspect défensif, et eux un peu moins, ou alors tu ne l'as pas assez vu, parce que tu as raison sur la Croatie. Il y a des moments où tu as vu qu'il y avait un souci. Ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter contre l'Allemagne en quart de finale.
Flo, pas challengé. On verra où ira l'Italie, par exemple, dans cet Euro. Et puis t'étais quand même dans la poule, la supposée la plus compliquée, avec
des adversaires décevants.
Je pense que c'est l'Espagne qui les a rendus aussi à un moment donné. Quand tu mènes 2-0 à la 30e minute,
l'Italie a besoin de l'Espagne pour être décevante.
Moi, je pense que contre beaucoup d'équipes, parce que autant l'Espagne, pour moi, n'a pas fait un énorme match contre la Croatie, ils ont su être opportunistes en première mi-temps, autant le deuxième match, pour moi, ils font un énorme match de football. Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes face à cette Espagne-là, face à ce Nico Williams qui était en feu total sur la rencontre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient été en difficulté. Hein.
Et justement, après après deux matchs de poule, après les victoires de l'Espagne et celle de l'Allemagne contre l'Écosse puis contre la Hongrie, je me souviens qu'on les mettait un peu au même niveau sur le côté. Mais après, il y a eu le troisième match. Et Polo, justement, c'est quoi les conséquences de ce match nul de l'Allemagne contre la Suisse? Est-ce que ça a calmé tout un peuple? Est-ce que ça a remis en cause beaucoup de choses alors que l'Allemagne avait démarré très fort?
Oui, ça a remis quelque chose en perspective, encore une fois, parce que le match contre l'Écosse n'est pas à analyser. Le match contre l'Écosse, c'est un match de qualification, c'est pas un match de niveau d'un championnat d'Europe. Et donc, on est resté sur ce 5-1, ça fausse, encore une fois, c'est le roi à 24 qui fausse toutes les analyses. Et vous regardez le match contre la Hongrie qui déjà est nettement moins intéressant à regarder, même s'il y a victoire 2-0. Et ensuite, tu commences à avoir une équipe très sérieuse comme la Suisse qui est habituée à ses aux huitièmes de finale depuis un bout de temps avec beaucoup de certitudes. Et tu as en fait une presse allemande qui se dit le match contre la Suisse va nous montrer maintenant ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'en fait l'Euro commence maintenant. L'Écosse, vous pouvez oublier, c'est pour Mickey, ça c'est pas intéressant. Le match contre la Hongrie, c'est un match de poule qu'il fallait gagner parce que c'était important. Et il manque en fait ce facteur X qui est le Danemark en huitième, qui a souvent embêté les grandes nations, qui a, même s'ils ont fait trois matchs nuls, ils ont souvent dominé leur rencontre. Hein, le match contre la Serbie en est un bel exemple. Et donc l'Allemagne doit augmenter son niveau. Mais encore une fois, j'arrête pas de dire que l'Allemagne est dans l'urgence. On ne peut pas se tromper. Il y aura pas de défense centrale qu'on a vu, qui d'ailleurs était pas bonne, Rüdiger, Jonathan Tah, lors des trois premiers matchs, il y en a un qui est blessé, l'autre est suspendu. Donc on sait que c'est Schlotterbeck plus X. Et le grand débat en Allemagne en ce moment, c'est qui ? C'est qui, mettons, en numéro 9 ? Oui. Est-ce qu'on garde Kai Havertz ou est-ce que c'est Füllkrug ? Parce que Füllkrug, c'est 19 sélections, c'est 13 buts. C'est un but tous les 58 matchs.
Dans ce que tu dis, Polo, dans l'urgence dont tu parles, ce serait quand même incroyable de ne pas avoir Füllkrug contre le Danemark.
Bah, si tu parles de statistiquement pur, ok, il doit être titulaire à la place de Kai Havertz qui a pas brillé. À la rigueur, on peut aimer Kai Havertz contre l'Écosse, etc. Mais par la suite, ça n'a pas été bon. Ouais. Mais tu peux aussi imaginer avoir deux attaquants. Tu peux imaginer que Virs sorte du 11 de départ aussi. Tu peux imaginer plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que le débat en Allemagne, c'est est-ce qu'on doit mettre Füllkrug ou pas. Et ça, c'est un peu Nagelsmann qui doit avoir les mains d'or pour essayer de trouver la sélection miracle contre le Danemark. L'Allemagne sera favorite. Maintenant, on va pas se rappeler l'Euro 92. Moi, j'ai toujours en tête parce que j'ai toujours pas compris comment les Danois ont gagné. Mais c'est comme ça que c'est arrivé. Ça arrive. Et maintenant, on passe dans une autre type de compétition à élimination directe. C'est autre chose. Il n'y a pas de vécu commun dans cette Nationalmannschaft. Et par contre, les Danemark ont une très belle génération et ils nous le prouvent match après match. Moi, je les ai vus exploser complètement les Autrichiens dans des matchs de qualification, matchs amicaux, ce que vous voulez. C'est un match qui est très important pour l'Allemagne. Et puis, on commence à dire quand même en Allemagne que la finale de l'Euro, elle aura pas lieu à la mi-juillet, elle aura lieu en quart de finale. Parce que c'est l'Espagne-Allemagne qui se pointe. Et c'est évidemment, c'est toujours difficile de se projeter sur ce qui se passe, mais pour beaucoup dans la presse allemande, c'est un petit peu la finale de cet Euro 2024 par rapport au niveau des équipes moyennes qu'on a vues lors des
fins. Déjà, techniquement, c'est les deux plus belles équipes.
Finalement, on reste c'est assez marrant parce que même si
le Portugal quand même. Mais...
Non, moi je.
Ouais, moi,
mais ça reste un peu les impressions du début sont globalement les bonnes. Même si l'Allemagne, l'impression a été surélevée, surévaluée par rapport à sa victoire contre l'Écosse, qui effectivement disait moins de choses qu'elle ne semblait signifier. Mais tu en ressors quand même avec deux des équipes que beaucoup, enfin, mettaient favoris après les premières minutes, on va dire, de cet Euro. Après, sur Füllkrug, c'est intéressant, et sur l'Espagne aussi, qui abandonne son tiki-taka, entre guillemets. C'est intéressant, les mouvements de balancier dans l'histoire du foot, et est-ce que les grandes compétitions décident ou valident? Parce qu'on est quand même sur quelque chose où t'as quand même envie d'aller remettre des neufs, tu sais, d'aller remettre des neufs, alors, enfin, on va dire, à l'ancienne. Entre le Scamacca, entre, moi, je vais parler de Giroud tout à l'heure, entre Füllkrug, que moi, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir Füllkrug titulaire. J'ai envie de le voir, ce mec. Il sur 15 minutes, c'est pas suffisant. Peut-être que c'est une erreur, mais en tout cas, sur un jeu parfois un peu plus direct, un peu plus avec du pivot, notamment dans les matchs décisifs, à mon avis, c'est des choses comme ça qui vont être décisives.
Ce sera samedi à 21h, Allemagne-Danemark, ce huitième de finale de l'Euro. Merci beaucoup, Polo. Merci, Fredo. Bonne soirée. Bonjour à vous. Et à très vite.
Salut, les gars.
Dans un instant, les deux grosses nations qui ont déçu. Parmi d'autres d'ailleurs, l'Angleterre et l'Italie avec Julien Laurence, Johan Crochet. C'est l'after en direct jusqu'à minuit avec Flo Gautreau et Walid Acharchour. À tout de suite.
RMC, l'after foot.